I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séances Radio.
Bonjour et bienvenue dans cette grande séance de début juin. Je vais vous présenter évidemment les rendez-vous habituels, mais d'abord on a des petites nouvelles dans cette émission parmi les blogueuses. Bonjour Marla de Marla's Movies.
Bonjour Bruno.
Vous allez nous parler d'un coup de cœur tout à l'heure. Marie de Coninck, Bulle de Culture, bonjour.
Bonjour Bruno.
Et puis un vieux de la vieille, si on peut dire.
Ouais, bonjour.
Il va y avoir Conflit de Génération tout à l'heure, vous allez voir. Antoine Corté de Bulle de Culture. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir comme invité Maurice Barthélémy, comédien, scénariste, réalisateur, qui est pas vraiment dans ses petits souliers parce qu'il a encore quelques jours, qui va présenter Les Ex, sa dernière comédie qui sort le 21 juin avec Jean-Paul Rouve, Patrick Chesnel, lui-même, qui se met en scène. C'est super drôle. Pas encore le trac.
Non.
Il y a des bons retours en plus.
Il y a des bons retours, le film est bien accueilli, donc non, ça va. Et puis plus je vieillis, moins je me mets de pression, donc ça va.
Ça c'est bien, parce que d'habitude les réals, ils ont un peu de pression. Bon. Bonjour Maëlle, c'est avec vous qu'on peut communiquer si on a envie de poser des questions en direct pendant cette émission.
Exactement, sur Twitter, @séanceradio, sur Facebook pareillement, et sinon avec le hashtag La Grande Séance.
Dans un instant, on va passer à la première rubrique, mais on aura le box-office, top et flop français et américain, les coups de cœur de nos blogueurs, les événements, il y en a plusieurs, le débat, attention, super programme, vous pouvez poser des questions. J'ai été très prudent quand même dans le titre, y a-t-il quelque chose qui ne tourne pas rond au Festival de Cannes? J'ai pas dit qu'il y avait quelque chose, j'ai dit y a-t-il quelque chose qui ne tourne pas rond à Cannes? Parce qu'on verra pourquoi, c'est un petit tristounet cette année. Et puis pour le blind test, Maurice Barthélémy ne le connaît pas encore, mais il va pouvoir jouer quelques-uns des plus beaux thèmes musicaux de l'histoire du cinéma. Je regardais, c'est pas compliqué. Hein. Voilà, et dans un instant, les tops et les flops du box-office.
La grande séance, le box-office.
À tout seigneur, tout honneur, on commence par la France et par un top. On va dire, parce que c'est vrai, Maurice, c'est pas du tout pour vous faire peur, hein, que les comédies et les dernières comédies fonctionnent pas.
Oui, depuis 3-4 mois, il y a un petit problème.
C'était terrible, il y a un petit problème.
Les élections, peut-être que le choix proposé n'a pas donné envie, enfin je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que
les gens vont penser que je suis obséquieux, mais c'est pas vrai, mais il y a aussi des comédies qui n'étaient pas très bonnes, je dois le dire, qui sont sorties, donc je ne citerai pas de nom. Et Les Ex, c'est très drôle et c'est intelligent. Donc c'est une comédie intelligente. Merci. C'est vrai, je le pense sincèrement, et comme on en fait de moins en moins, parce que faire des comédies pour de la comédie, c'est le débat qu'on aurait pu choisir aujourd'hui. Faire de la comédie pour la comédie, c'est pas toujours évident. Donc voilà, Marie-Francine s'en sort bien. On est à peu près à dimanche soir, je pense, à 310 000 entrées.
Ah, c'est bien.
Ce qui est plutôt bien. Mmh. Marie-Francine, le film de Valérie Le Mercier, qui est un film charmant d'ailleurs, que moi j'ai beaucoup aimé. Les flops, alors c'est un tir groupé. Je vais dire, en gros, c'est les films de Cannes.
Ah oui.
Parce que Les Enfants d'Ismaël de notre ami Arnaud Desplechin est à 310 000 entrées en 4 semaines. C'est pas un franc succès. Mmh. Rodin n'a pas atteint les 200 000 entrées, donc ça marche pas bien. Surtout que normalement on se dit qu'avec la vitrine de Cannes, ça peut booster un peu les films. Vous vouliez réagir, Antoine?
Non, enfin en tout cas Rodin, c'est quand même assez particulier, très lent,
il faut se mettre dedans. Il paraît que le son, tout le monde se plaint. Alors c'est la première fois que j'entends ça. Tout le monde se plaint du son et qu'on ne comprend pas les dialogues.
Ah c'est vrai.
Ouais. Tout le monde le dit.
Eh ben oui,
moi, il y a un problème de son dans le film.
Moi j'ai eu ce problème sur plusieurs films à Cannes.
Ah bon?
Plusieurs films où j'ai pas entendu pour le film d'Azanavicius, pour le.
Mais vous savez, c'est Valérie Le Mercier. Vous, Maurice, vous connaissez bien le problème technique. Valérie Le Mercier m'a dit, alors moi j'ai pas compris ce que ça voulait dire, que son film avait été réglé à 5 et que plein de gens avaient Paris n'avait pas bien entendu et qu'elle, elle passait pour le régler à 7 et que ça changeait tout, c'est vrai ?
Oui, effectivement, chaque salle, en fait, règle le son un peu à sa convenance. Or, il se trouve que nous, quand on le mixe, on le mixe sur à un certain niveau. Et donc, on est obligé, aux avant-premières, d'aller voir le projectionniste pour lui demander de mettre le son qu'il faut, parce que généralement, il baisse le son.
Ah, c'est incroyable. Oui, Marla.
Ce que j'ai entendu sur Rodin, c'est qu'en fait, Vincent Lindon incarne le sculpteur et qu'a priori, selon la légende, il parlait dans sa barbe.
Oui, tout le monde
donc
le dit.
C'est aussi lié au jeu de Vincent Lindon qui veut imiter le sculpteur.
Il a une grosse barbe, il parle dans sa barbe.
Et apparemment, ça n'aide pas.
Au sens propre du terme, c'est vrai. Je l'ai entendu aussi.
Alors voilà pour le top. On en était au flop. Les enfants d'Ismaël ne marchent pas bien, Rodin ne marche pas bien. Et l'amant double. En 10 jours, il est environ à 170 000 entrées. Donc
ça me surprend. Ozon, généralement.
Ouais, Ozon, ça marche.
Ça marche toujours bien.
Surtout à Cannes, mais les critiques n'avaient pas été très bonnes. Côté américain. Alors là, il n'y a pas des super succès, mais on va dire que malgré les problèmes de tournage avec notre ami Johnny Depp, etc., je crois que Disney en a un peu marre d'ailleurs. Ils ont annoncé que c'était sans doute la fin de la série. Le Pirate des Caraïbes, La Vengeance de Salazar numéro 5, est à plus de 2 millions d'entrées, donc on va quand même le mettre dans les tops, et a fait 500 millions de dollars dans le monde, donc on va quand même le dans les tops. Voilà, on va dire ça.
C'est pas mal.
C'est pas mal. On souhaiterait ça au film français. Les flops, alors les flops, vous devinez ou pas ?
Alien.
Ben absolument. Ah, Alien 5.
Zut.
Alien qui est pas très bon.
Non, j'ai été déçu.
Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est dommage.
Pourtant,
parce
Ridley
que...
Scott quoi donc.
Ah ouais. Moi j'attendais beaucoup. On pensait que et là il nous donne une explication un peu lourdingue qui ferme un peu même la série parce que nous on préférait rester dans le mystère.
Bah oui.
Et là il nous dit tout. Voilà. C'est bizarre. Ouais.
Avec des petites références au premier, mais ouais. Tout ça on en ressort un peu.
Et en France, il fait à peine plus d'un million d'entrées. Donc c'est un gros échec. On se retrouve dans un instant avec nos blogueurs.
La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
Marla voulait nous parler d'un film qui était en compétition à Cannes, qui a été reçu de façon mitigée, mais moi que j'ai bien aimé, c'est le film de Naomi Kawase, Vers la lumière.
Absolument, alors c'est un vrai plaisir de défendre ce film aujourd'hui. Naomi Kawase, c'est une réalisatrice que je connaissais un petit peu pour avoir vu Les Délices de Tokyo il y a un an ou deux, qui était déjà très jolie. Et je trouve que Vers la lumière est encore meilleur. Vers la lumière, ça m'a touchée pour deux raisons. Ça parle de cinéma et ça parle d'écriture. Il s'agit.
Dites-nous le pitch.
Oui, voilà. Il s'agit de Misako qui s'occupe d'audiodescription, c'est-à-dire qu'elle décrit les films pour ceux qui ne les voient pas, les aveugles, les malvoyants. Et son rôle, c'est par la plume, par l'imaginaire, de décrire ses films aux aveugles et aux malvoyants. Et c'est une très belle histoire d'amour entre cette jeune femme et un photographe qui malheureusement perd la vue et va devoir dire adieu à sa passion.
Absolument, oui. Et c'est un très joli film. Moi, j'ai trouvé aussi, je pensais qu'il serait au palmarès, qu'il aurait touché Pedro Almodovar, mais ça n'a pas été le cas. Il n'a pas eu de prix.
La pauvre Naomi Kawase, elle n'a jamais de prix.
Non.
Il y a eu un prix quand même. Il y a eu le prix œcuménique. Oui, d'accord.
On n'en a pas beaucoup parlé.
Petite consolation, mais quand même, il a été remarqué. Ça lui fait de la pub. Ça fait plaisir quand même.
Ouais, c'est une excellente réalisatrice quand même. Elle fait des très belles choses. Alors, c'est vrai que c'est lent. C'est vrai que ce film Vers la lumière est très lent et que au cinéma, c'est extraordinaire. La distorsion du temps. On en parlera tout à l'heure pour le Hong Sang-soo, mais. On ne sera pas d'accord avec Antoine. Marie de Coninck, Bulle de Culture, vous avez vu un film qui était dans une sélection parallèle.
Tout à fait, j'ai vu un film qui était à la quinzaine, que j'ai trouvé très très joli, donc je suis ravie de vous en parler. C'est le premier long métrage d'un réalisateur français qui s'appelle Vladimir de Fontenay, qui a 29 ans, qui a étudié à New York, à la Tisch School of the Arts de la NYU. Et ce premier long métrage est vraiment très très joli, ça raconte... l'histoire d'un couple, Ali et Evan, qui sont sans repère, des jeunes gens qui vivent de leur coq de combat, qui récoltent des paris. Et ils essayent de s'occuper de leur enfant Bone, mais ils n'ont aucun repère. Ils lui apprennent à faire des restos basket. Enfin, c'est une catastrophe totale. Ils lui font dealer de la coke. Enfin, ça ne va pas du tout. Mais ils sont finalement des gens très bienveillants. Et surtout, le soir, ils vont s'incruster dans des maisons parce qu'ils n'ont pas de maison. Et donc, ils sont, eux, mobiles vers les homes, qui veut dire foyer en anglais. Mais finalement, il va se passer quelque chose
Que vous ne direz pas.
Que je ne dirai pas, mais qui est très très joli et qui est toute une métaphore autour des mobile homes. Et voilà, je voulais en parler parce que c'est un film qui est extrêmement sensible, touchant, qui est joué de façon très simple.
Comment il a été reçu à Cannes ?
Eh ben, moi j'en ai entendu beaucoup parler. Il a pas eu de prix à la quinzaine, je l'ai regretté.
Ouais.
Mais j'en ai entendu parler beaucoup.
Il
aurait pu
avoir la caméra d'or parce que c'est un premier film.
Et en plus, alors je croisais les doigts, mais non. Mais il paraît que la caméra d'or était très bien aussi.
Oui, c'est un film français, hein.
Oui.
De Léonore Ferraille. Ouais, Ferraille, ouais, absolument.
Et voilà. Et donc c'est un film qui a une sensibilité. On est ému dès les premières minutes et on arrête. On a le ventre qui se dénoue à la fin du film. C'est vraiment un film qui vous porte.
Bah, c'est bien, hein.
Ouais,
ça donne envie.
Ça donne envie.
Alors, on est vraiment dans Cannes, hein. Antoine Corté, le film donc Sang-Soo, qui s'appelle
Le jour d'après, est également en salle depuis aujourd'hui.
Exact.
De quoi ça parle? Donc, effectivement, ça parle d'un patron de maison d'édition qui trompe sa femme avec son assistante. Et puis, sa femme a des lourds soupçons. Et donc, du coup, il change d'assistante. Et un jour,
sa femme réplique
au sein de la maison d'édition et prend
la jeune nouvelle assistante
pour l'ancienne assistante qui était effectivement sa maîtresse.
Et ça devrait être un marivaudage.
Il y a un espèce de quiproquo qui se crée. Et puis après, évidemment, maintenant que la femme a identifié la fausse maîtresse, eh ben le patron va essayer de remettre son ancienne assistante, qui est sa vraie maîtresse, comme ça.
Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film qui, moi, m'a ennuyé?
Hong Sang-soo, effectivement, pour moi, c'est un peu le cinéma de l'austère. Et puis là, de prime abord, c'est pareil. Il a l'air de nous proposer une mise en scène très lente, du noir et blanc pas toujours justifié, mais pourtant, paradoxalement, moi j'ai quand même été pris dans un certain rythme, c'est-à-dire qu'il décide d'imposer des lenteurs, des dialogues assez un peu rocambolesques quand on a des répétitions en disant « c'est pas toi, mais c'est moi, mais c'est moi, mais c'est toi ». Et du coup, finalement, moi j'arrive à quand même un moment de théâtre.
C'est du théâtre filmé
ouais, et je trouve ça quand même assez assez intéressant parce que du coup il va dans un registre comique là où Hong Sang-soo quand même est spécialiste des drames austères et
ce qui est génial c'est que tout le monde me dit pour défendre Hong Sang-soo, je respecte toutes les opinions par rapport à ce qu'il faisait avant. Et il a la carte, lui. Alors, c'est un génie, c'est un mythe, etc. Mmh. Et donc, les gens disent, mais des fois, il est quand même très ennuyeux. Là, il est moins ennuyeux que d'habitude.
Bah oui, mais évidemment.
Donc, c'est bien d'avoir ce statut-là.
Quel soulagement.
C'est un soulagement. Non, mais voilà. Moi, je respecte. Il y a plein de gens qui l'ont aimé à Cannes et qui l'ont défendu. Donc, voilà. Alors, donc, on le conseille quand même.
Ah oui,
moi j'aimerais bien que Maurice Barthélémy aille le voir.
C'est pas le même style de comédie.
Non, mais attends, c'est pas long.
C'est pas parce que je réalise des comédies que je vais pas voir d'autres films. Au contraire, moi, je suis très cinéphile, donc je vais tout voir. Mais c'est vrai que celui-ci, il me donnait vraiment pas envie parce que j'entendais les critiques qui disaient que c'était lent, que c'était. Et du coup.
Puis le noir et blanc, peut-être qu'il n'avait pas les moyens de faire de la couleur, mais le noir et blanc n'est pas mais c'est possible. Mmh. Le noir et blanc n'est pas justifié. Et puis alors, Dieu sait si je reproche parfois aux comédies sentimentales françaises d'être lourdingue, etc. Mais là, à côté, des films comme le film de Justine Triet, Victoria, qui est aussi sur une jeune femme, et voilà, ça n'a rien à voir comme thème, mais c'est 10 fois plus fin. Là, c'est pas fin, quoi.
Mais c'est très sociologique. En tout cas, moi, le noir et blanc, je l'ai quand même perçu comme voulant montrer un certain état de la société en Corée, ce genre de choses.
Ouais.
Donc, du coup, moi, je l'ai mis en disant, il l'a ancré dans un univers qui n'est pas folichon, quoi. C'est la classe.
Maurice, vous aviez été voir par curiosité Mademoiselle.
Non, je l'avais pas vu. Il paraît que c'était magnifique.
C'était magnifique. Ouais, alors, parlons de coréen à coréen, c'est un bijou qui aurait pu avoir, qui aurait été une palme d'or à la fois intelligente, avec du sens, parce que ça parlait de la guerre, de la manipulation, etc. et qui était flamboyant. Ce qui manque un peu, on en parlera au Festival de Cannes, c'est une certaine flamboyance. On se retrouve tout de suite avec notre invité Maurice Barthélémy.
La grande séance, l'interview.
Alors, c'est plus la peine de vous présenter Casablanca Driver, Papa que tout le monde a adoré, que tout le monde a été très ému par ce film, Low Cost qui nous a fait rire, Pas très normal activité qui était un film bien bien à l'ouest, et puis cette fois Les Ex. Les Ex, Alors pour faire le pitch, Jean-Paul Rouve, au début on le découvre, c'est un écrivain, j'ai vu le film il y a pas mal de temps, mais qui a écrit un livre qui s'appelle Heureux comme un ex, et il explique que les ex sont extrêmement présents dans nos vies. Vous êtes jeune, mais vous verrez.
Moi, malgré votre jeunesse, vous avez sûrement eu des ex, j'imagine.
Je suis déjà d'accord, hélas.
Donc, pour faire court, Antoine Jean-Paul Rouve, lui... je vais pas spoiler, hein, mais voilà, il regrette un peu son ex, et en plus il va arriver un drame dans sa vie. Voilà, il va se retrouver avec ses deux jumelles qui sont super super relous, super chelous. Donc il va devoir gérer ça, et du coup il n'ose pas trop s'engager. Il y a Didier, alors lui c'est un grand numéro, Patrick Chenet qui regrette son ex, mais quand il est face à elle, il l'insulte mais avec une violence incroyable, mais quand même il aime toujours en fait. Il y a le père Laurent, alors c'est notre cher ami Arnaud Ducret, qui est devenu prêtre après avoir une vie agnostique, on va dire. Et là il doit marier une fille dont il était autrefois amoureux. Donc c'est un peu rude, parce que il se rend compte qu'il est toujours amoureux d'elle en fait. Donc voilà. Et puis il y a Serge, qui est joué par Maurice Barthélémy, qui lui est obligé de courir vite parce que il est avec une jeune femme qui avait une compagne. Donc lui, il fuit l'ex-compagne de son ami. Celle qu'il poursuit, c'est Claudia Tagbo. Et puis il y a Greg, Baptiste Caplin, qui n'a plus d'ex, mais qui a le chien de son ex. donc il va. Au début, il en.
Non, mais vous m'épatez, vous êtes la première personne à pitcher le film aussi précisément. Généralement, les gens, ils se découragent, ils se disent, bon, gros, c'est un film choral avec plein d'intrigues. Et voilà. C'est bien.
Je pourrais continuer comme ça. Mais, ce qui est drôle, c'est que c'est un vrai film choral. Jean-Paul Rouve, que j'en avais dit, c'est pas choral. Si, c'est choral, parce que, en plus, c'est très bien tissé. C'est pas évident, les films choraux, et c'est très bien tissé, parce que tout ce monde-là va se croiser. Et c'est quand même l'amour qui triomphe tout le temps, que ce soit avec les ex, que ce soit avec les nouvelles, que ce soit avec les nouveaux. Et puis, il y a un petit ton aussi de gravité, parfois, de tendresse, on vieillit, mon cher Maurice Barthélémy, donc on n'est pas toujours drôle, il y a aussi de la tendresse. Alors tout ça, c'est parti d'un film italien.
Oui, qui s'appelle Ex, qui n'est pas sorti en France, et je l'ai vu en Espagne, et il m'a intéressé surtout par sa structure. Moi, j'ai toujours aimé les films un petit peu Rubik's Cube, un peu à la Altman, et donc j'ai
Shortcuts. Quel chef-d'œuvre.
Ah ouais, ça m'avait beaucoup plu. Il y avait aussi, je me demande s'il y avait pas, il y a Trafic aussi qui était un peu construit comme ça. Hein,
oui. C'était Collision.
Collision.
Absolument. Voilà, qu'est-ce que c'était bien de Paul Haggis. Magnifique. Ah, incroyable.
Et donc voilà, j'aime bien ce genre de film là où voilà, on suit des personnages de générations différentes qui s'entrecroisent comme ça et qui ont tous en commun un problème avec leurs ex. Alors certains ont envie de revenir avec leurs ex, d'autres regrettent d'avoir été avec leurs ex, mais en fait tout ça parle finalement d'amour, comme vous le disiez. Ouais.
Vous avez beaucoup changé le scénario de la comédie italienne.
Oui, j'ai complètement modifié. J'ai gardé la structure et j'ai changé tous les dialogues. J'ai même enlevé des personnages que j'ai rajoutés. J'ai rajouté des personnages à moi, notamment celui de Baptiste Le Caplin avec son chien. Bref, je me suis plus inspiré d'un film que d'en faire un remake. Ouais.
Et alors, vous avez écrit tout seul ?
Oui.
Vu ça ?
Oui.
C'est long ?
À
c'est
faire.
Dur ouais,
non,
à écrire
non. Pas du tout, c'était un vrai plaisir parce que justement ce qui était rassurant c'est que j'avais cette structure de base et après je me suis amusé à la modifier et donc c'était assez ludique en fait l'écriture.
Alors comment vous avez choisi? Alors quand j'étais avec Jean-Paul Rouve, la première question que je lui ai posée, ça va vous faire rire, vous l'avez peut-être dit, j'ai dit en tout cas je vais vous parler de votre ex, alors il a tiqué, j'ai dit votre ex Maurice Barthélémy
parce oui, que c'est ça. Ah bah oui.
Avec lui vous vous engueulez pas parce que il y a une vraie histoire.
Ah mais c'est clair, on était dans les Robins des Bois ensemble il y a 20 ans et on était binôme tous les deux, on écrivait ensemble et donc on partageait le même bureau, on partait en vacances ensemble. Donc c'est vrai que pendant 10 ans de notre vie, on s'est plus vu lui et moi que lui avec sa nana et moi avec la mienne.
Et alors justement, on va reparler du film, mais j'enchaîne là-dessus. Ce qui est extraordinaire, c'est un peu comme le Splendide. Chacun fait son chemin. Ouais, Rouve, Marina Foïs, qu'on a vu dans un très beau film que je conseille à tout le monde, qui était Un certain regard.
L'atelier.
Oh là là, remarquable.
Ouais, il paraît,
qui aurait dû être en compétition et qui aurait été est peut-être mieux que Rodin ou en compétition. En tout cas, c'est un film remarquable de Laurent Cantet. Bref, Jean-Paul Rouve. Alors, Jean-Paul Rouve, il refuse jamais un film avec vous, hein, il m'a dit.
Non, bah, c'est une vieille histoire. Puis c'est, on s'amuse tellement à travailler ensemble, quoi. Moi, c'est mon but dans la vie, c'est de travailler avec mes amis. Donc, ça me vient un peu de Alain Chabat. Ça, il y a une espèce de tradition comme ça de réunir des gens qu'on aime et qui ont du talent, évidemment, parce que je vais pas faire appel à des tocards. Mais, moi, c'est ça que j'aime. C'est le plaisir, en fait. C'est hyper important pour moi, le plaisir sur un plateau, le plaisir de se retrouver avec des acteurs qu'on aime. Voilà, c'est le plaisir.
Et alors, j'ai remarqué que la distribution est très éclectique. Arnaud Ducret, avec qui vous n'aviez jamais tourné. Vous avez pris toute une génération
exactement.
D'acteurs.
Exactement.
Une nouvelle génération, en fait.
Exactement, une génération un peu émergente. Alors, Ducret, il vient de la télé. Baptiste Le Caplin, Claudia Tagbo viennent plutôt de la scène et du stand-up. Moi, en fait, comme j'ai eu un parcours un peu
atypique,
j'ai pas du tout de
cases.
Exactement. Ouais. Donc, moi, je prends les acteurs qui m'intéressent ou qui correspondent au rôle. On va pas se cacher, on va pas non plus complètement avoir la langue de bois. C'est sûr que d'avoir un Arnaud Ducret, par exemple, au casting, rassure énormément certaines chaînes.
Ah oui. Parce qu'il
cartonne à la télé.
C'est dingue.
Qu'il a aussi été dans Adopte un veuf qui a bien marché, etc.
Ouais.
Donc, du coup, c'est à prendre en compte, même si je suis ravi de l'avoir pris. Mais voilà, c'est une petite alchimie entre mes envies et puis, il faut être réaliste aussi. Il faut monter un film et le rendre.
Il y a Patrick Chesnais qui est une pointure.
Ouais.
C'est assez drôle. Leur tandem avec Jean-Paul Rouve.
Ils sont très très complices tous les deux. C'est des acteurs assez proches en fait. Ce sont ce que j'appelle des râleurs dans le cinéma français.
Ouais.
Il en faut.
Un emploi.
Moi j'adore hein, parce que Jean-Pierre Bacri, Cluzet à une époque c'était un râleur. Darmon c'était un râleur. Et moi j'adore les râleurs parce que ce sont des gens. Lino Ventura évidemment. Ce sont des gens qui parlent vite. Ce sont des gens qui ont un phrasé extrêmement rapide. Et moi j'adore ça parce que le phrasé rapide évite trop de psychologie. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'ils vont droit au but, quoi. Ils sont pas dans, ils se promènent pas dans leur texte. Et moi, j'adore ça, les acteurs râleurs et Rouve et Chesnais en font partie. Je crois que c'est pour ça qu'ils s'entendent aussi bien.
Et comment ça se passe sur un plateau? Parce que c'est un film choral, c'est pas évident. Je pense que vous avez travaillé beaucoup au montage. Comment ça s'est passé?
C'était extrêmement détendu parce que je savais assez bien ce que je voulais faire. Donc, je l'avais bien préparé, ce film. Ce qui fait que quand j'arrivais sur le plateau, je savais, quoi demander à mes acteurs et à mon équipe. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de stress. Les acteurs, en fait, ils ne réclament qu'une chose dans la vie, c'est d'être sécurisés, d'être pris en main et d'avoir le sentiment qu'ils ont un metteur en scène qui sait ce qu'il veut. Et à partir du moment où on les rassure, ils sont rassurés et tout va bien. Donc, ça s'est bien passé.
Je t'en prie, Antoine.
Oui, moi, j'ai une question sur la double casquette réalisateur-acteur.
Ouais.
Justement, comment ça se passe concrètement? Comment on s'auto-dirige? Comment on apprécie les...
En même temps, Maurice n'avait pas un énorme rôle.
Non, j'ai pas un grand rôle dans celui-là. Mais c'est vrai que c'est un pli que j'ai pris à l'époque des Robin des Bois. En fait, à l'époque, on faisait de la télévision, on travaillait beaucoup, on faisait une demi-heure de sketch par jour, et en fait, on se regardait jouer, mais sans aucun jugement. C'était juste une question de rythme. On se disait là, on est dans le rythme, là, on n'est pas dans le rythme. Ce qui fait que j'ai pris ce pli-là, de me regarder sans me juger, simplement en voyant le problème technique que je peux, qui peut se poser. Donc, du coup, moi, j'ai pas de problème à passer devant, derrière. En revanche, ça me retire un peu de plaisir. C'est-à-dire que
c'est pas pareil que quand vous êtes dirigé par un autre.
Exactement. Moi, j'adore venir sur un plateau, être dirigé, arriver les pieds sous la table. Moi, j'ai appris mon texte et je me laisse diriger. Ou alors, j'adore être derrière le combo et diriger mes acteurs et être hyper concentré pour faire en sorte qu'ils soient le mieux possible. Faire les deux, on se retire un peu de plaisir et puis
en
tant qu'acteur et en tant que réalisateur. Et puis on déstabilise un petit peu l'acteur avec qui on joue.
Parce
que forcément, c'est-à-dire que lui, il sent qu'il a le regard de l'acteur face à lui et du metteur en scène en même temps. Et ça a tendance à un peu à les déstabiliser. Ouais, au final, c'est pour ça que je me suis donné un petit rôle, pour ne pas trop brouiller les pistes.
Vous êtes assez directif parce que il y a toute une gamme de réalisateurs qui disent à partir du moment où on a fait le choix de l'acteur, c'est fait. La direction d'acteur, c'est faire le choix. Choisir Arnaud Ducret pour le prêtre, choisir Patrick Chenet pour le râleur, etc. Est-ce que, comme vous connaissez bien le métier de comédien, vous avez tendance à leur donner des indications un petit peu?
Oui, alors je leur donne des indications, mais toujours dans la bienveillance. C'est-à-dire qu'un acteur, il faut vraiment le réconforter dès le début. Parce que c'est quelqu'un de fragile, un acteur. Et c'est comme ça. Mmh. Donc il faut toujours lui dire, c'est super. Dès la première prise, c'est super, même si c'était pas super. Et après, lui dire, mais je te propose une chose, c'est qu'on va aller un peu plus vers là ou un peu plus vers là. Et à ce moment-là, l'acteur a le sentiment que bon, ça lui pose pas de problème. Il y a des réalisateurs qui connaissent pas bien les acteurs et qui ont tendance à sortir des phrases un peu dures, du genre, non, c'est pas ça. C'est vrai que ça, c'est dur pour un acteur de s'entendre dire c'est pas ça. Ça fout un coup un peu. Et moi, je dis, ah, c'est super, c'est génial. Mais je te propose qu'on le fasse un peu plus dans cet esprit-là. Et ça passe toujours très bien. Mais c'est vrai que moi, je suis très précis dans ce que je réclame. Et j'ai tendance à ne pas lâcher l'affaire tant que j'ai pas ce que je veux. Mmh. En revanche, une fois que j'ai ce que je veux, je laisse toujours deux ou trois prises à l'acteur pour lui proposer ce qu'il a envie de proposer.
Alors, vous parliez tout à l'heure, Marla.
Vous dites que vous êtes choisi un petit rôle, celui de Serge. Est-ce que c'est un personnage qui vous ressemble?
Pas vraiment. Non, c'est un personnage. C'est vraiment le personnage le plus burlesque du film.
Il ressemble pas parce qu'il est un peu.
Il est lâche.
Il est lâche.
Et mais bon, il se trouve que c'était le personnage qui était le plus en adéquation avec ce que j'ai pu faire au cinéma. Donc je l'ai fait de façon assez évidente.
Il a peur.
Il a peur tout le temps.
De Claudia Tagbo,
et puis en même temps,
qui est flic en plus.
Ça m'a permis de jouer avec une actrice incroyable qui est Zoé Duchesne, qui est une ancienne mannequin québécoise qui doit faire à peu près en taille 2m85 et je lui arrivais au niveau du genou et c'était une expérience inouïe parce qu'elle est magnifique et c'est une super actrice.
Alors vous parliez tout à l'heure on parlait des comédies qui ne fonctionnaient pas. On entend dire que à partir du moment où une comédie cartonne comme les films de Philippe Lachaud, tous les producteurs, la télé, tout ça cherchent des comédies. Et en même temps, on s'aperçoit, moi il m'est arrivé sur Europe 1 de faire des flop 10 et Dieu sait si j'en ai fait. Mmh. On s'aperçoit il y a pas que ces derniers mois, c'est assez récurrent les comédies qui se plantent pour une qui marche très bien, il y en a pas mal qui se plantent. Alors ma première question c'est d'abord, est-ce que c'est vrai que les producteurs veulent de la comédie en ce moment?
Ben oui, parce que les comédies sont plus faciles à produire, donc
pourquoi?
Parce que je pense qu'elles touchent un public très large. Et donc du coup, elles ont plus de chances de faire rentrer du monde. Donc oui, effectivement, les comédies sont favorisées, oui. Ouais.
Et est-ce que c'est difficile à monter? Est-ce que vous, dans 13, 14 ans, vous avez monté 4 films?
Oui, c'est mon 5e film. Pour moi, c'est à chaque fois encore plus difficile. Peut-être aussi dû à mon passé de Robin des Bois, où il pense tout le temps que je vais faire des films décalés. Et ça, c'est un truc incroyable.
C'est vrai.
C'est que je traîne ça comme une casserole. Alors qu'en fait, aujourd'hui, l'humour décalé, il est rentré.
Il est plus décalé.
Il est plus du tout décalé. Internet est devenu beaucoup plus décalé. En fait, l'humour décalé, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais j'ai quand même cette sorte de fatwa où je suis censé faire des films tout le temps décalés. Et là, par exemple, Les Ex. C'est pas du tout un film décalé,
c'est
une comédie romantique. Évidemment, alors j'y amène des trucs un peu.
Le chien.
Oui, voilà, il y a un chien par exemple qui a un cancer de l'œsophage et qui va pas bien. Et
mais donc du coup, c'est ça, c'est décalé quand même.
Non, c'est décalé, mais tout va bien.
Mais le personnage de Baptiste, le Caplain, du coup, il se demande pourquoi son chien déprime. Et en fait, son chien est sous chimio et il déprime. Alors du coup, il décide d'aller dans un groupe de parole de personnes atteintes de cancer pour essayer de comprendre ce que ressent son chien. Bon, en soi, ça c'est si vous le voyez dans une série comme Girls ou comme dans Love, personne ou des films, les comédies de Judd Apatow, personne va être choqué. Ici en France, dès qu'on propose un truc comme ça, on se dit, on est tout de suite taxé de décalé. Bon, voilà.
C'est pas une insulte, hein.
Une insulte, mais en revanche, c'est difficile de monter des films quand on a cette casquette de réalisateur décalé.
Oui,
je me permets
Marie.
Ça parce que ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup, peut-être trop de comédies françaises. Parce que je pense aussi que les producteurs veulent les têtes d'affiche, les mecs qui font marrer à chaque fois, etc. Et le décalé spécifique, notamment des Robin des Bois, parce qu'il y a vraiment une patte Robin des Bois, C'est aussi un film qui va avoir une âme, une identité. Et moi, j'ai l'impression que ces 6 derniers mois, j'ai vu plein de comédies qui n'avaient pas d'âme, pas d'identité, qui avaient juste une série de scènes à sketch, où il y avait le sketch de la scène numéro 1, le sketch de la scène numéro 2, et à la fin, ça m'intéresse pas, donc...
Ouais. Marla ?
Oui, peut-être on va laisser Maurice Barthélémy répondre à cette question-là.
J'évite de porter un jugement sur ce que font mes autres camarades. Pourquoi ? Alors, c'est pas parce que j'ai une langue de bois, c'est que en fait faire une comédie, c'est monstrueusement difficile en fait. Et on pense que c'est un genre facile, et pour en réussir une, il y en a 12 de ratés. Ouais. Et moi j'en ai raté, hein, donc je me mets évidemment dans le lot. Et c'est compliqué. Et on se plante quand on fait des comédies, même si au départ on peut avoir une bonne intention. Et évidemment, certains producteurs ont des intentions peut-être un peu mercantiles, ça c'est sûr. Mais en même temps, oui, c'est un dosage extrêmement compliqué, la comédie. Et c'est comme ça que je l'explique.
Oui, Marla.
J'avais une question sur la comédie, parce que quand j'ai vu le titre de votre film, ouais, Les Ex, je me suis dit, Les Ex, a priori, c'est pas drôle. Oui. Parce qu'effectivement, croiser un de ses ex, à part la terreur, je vois pas.
Ouais. Oui, mais c'est ça. Il y en a pour qui c'est la terreur dans le film.
Voilà. Ouais. Et quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai tout de suite pensé à 4 jours d'enterrement.
Oui.
Où on voit Hugh Grant qui est entouré de 6 de ses ex pendant le dîner d'un mariage d'un ami, et où il doit se justifier auprès des 6 femmes de
sa vie.
Je me
souviens pas de cette scène.
Qu'il a déçu, etc.
Mais c'est une bonne référence, effectivement. Moi, j'adore les comédies romantiques anglaises ou américaines comme celle de Working Title. Mais là, pour le coup, j'ai essayé de faire une comédie romantique à la française sans trop copier le genre américain ou anglais. Parce que je trouve que ça fait toujours un peu toc quand on va chercher le genre absolument. Donc, la raison pour laquelle c'est une comédie, c'est que là, pour le coup, j'ai insufflé l'esprit français un tout petit peu des portes qui claquent et de il y a un tel qui déboule ou quelqu'un qui fait une gaffe, etc. Bon, bref, voilà le côté un tout petit peu, comment on pourrait le qualifier, vaudeville, quoi. Mais sans que ça soit péjoratif, hein, mais voilà, c'est un peu ça qui m'a plu, quoi.
Moi, ce que je remarque, je fais partie des anciens, c'est que ce que j'aime pas dans certaines comédies d'aujourd'hui, c'est que le rire est provoqué par juste la transgression, comme vous disiez, Marie, on met des scènes les unes à côté des autres, alors que même dans une comédie, il faut qu'il y ait un fil humain. Et dans la comédie de Maurice Barthélémy, il y a un fil humain, humaniste, mais il y a non seulement une histoire, mais il y a un film humain. Il faut qu'il y ait de la tendresse. Un film, c'est Truffaut qui disait que c'était fait pour enchanter la vie. Même un film sombre, c'est fait pour enchanter la vie. Et voilà. Et moi, les comédies où tout le monde n'est pas de Chaplin, donc les comédies où juste le rire doit venir parce qu'il y a une noix de coco qui tombe sur la tête ou on prend une porte dans la figure, ça me fait pas rire, mais bon, c'est voilà, après c'est une question de goût, et il y a des comédies auxquelles je pense qui font des cartons, et voilà, donc c'est aussi peut-être une question de génération, mais en tout cas voilà, je souhaite le meilleur, mais vous restez avec nous, Maurice, pour Les Ex, qui est une très jolie comédie tendre en plus, et on fait une petite pause musicale.
Plutôt l'impression de gêner. Peut-être un...
c'est un extrait de la bande originale de Papa, justement, de Maurice Barthélémy. Maëlle, vous nous resituez l'émission si on veut communiquer avec nous?
Bien sûr, vous pouvez toujours interagir avec nous sur Séance Radio, sur Twitter et pareil sur Facebook. Sinon avec le hashtag La Grande Séance.
Et poser des questions sur le Festival de Cannes, puisqu'on va en parler dans un instant. À propos de Cannes, on parle des événements dans un instant.
Les événements cinéma sont dans La Grande Séance.
Alors, parmi nos événements, Champs-Élysées Film Festival, 6e édition du 15 au 22 juin, présenté par le réalisateur et producteur américain Randall Kleiser, qui avait réalisé Grise, et l'écrivain français Pierre Lemaître, grand écrivain, lauréat du prix Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut d'ailleurs.
J'ai été dans sa maison à Los Angeles, à Randall Kleiser. Oui.
C'est vrai?
Oui.
C'est drôle.
Oui, c'est super drôle.
À quelle occasion?
À l'occasion du Colcoa, qui est le festival français de Los Angeles. Et chaque année, la délégation française est invitée dans sa maison à Los Angeles, qui domine chez lui. Ouais. Alors c'est assez drôle parce qu'il y a des éphèbles en plâtre le long autour de la piscine. C'est très kitsch, c'est mais kitsch. Le monsieur est charmant.
Et c'est il y a une belle vue, c'est magnifique.
Ah oui, c'est sublime. On voit tout Los Angeles. C'est vraiment une villa hollywoodienne typique. Mais c'est...
Ah, vous allez peut-être croiser sur les Champs-Élysées puisqu'il vient. Et donc oui, Au revoir là-haut, c'était le livre de Pierre Lemaître qui est adapté par Albert Dupontel, qu'on va voir bientôt en octobre 2017. Dans le jury, il y aura Lolita Chama, Lola Creton, Vincent Dedienne, qu'on voit à la télévision, Jérémy Elkaïn, Camélia Jordana, Gustave Kervern et Karidja Touré. Il y a une compétition qui doit récompenser les meilleurs des 6 films de la compétition américaine ainsi que le meilleur des 6 films de la nouvelle compétition française, et puis le public votera pour accorder un prix du public. Ça, c'est pour Champs-Élysées Festival. Il y a un festival à Arles que je ne connaissais pas, du 3 au 31 août, festival de réalité virtuelle, pour découvrir le cinéma, le documentaire et la création artistique à 360 degrés. Voilà, ça c'est Arles. Il y aura 20 films. BNP Paribas est pour la seconde année partenaire principal de ce festival. Et le président du jury, c'était Michel Hazanavicius, qui présentait Le Redoutable à Cannes. Et d'ailleurs, à propos de réalité virtuelle, à Cannes, certains journalistes, moi j'ai pas eu le temps, ont été voir les quelques minutes du film d'Alejandro Iñárritu. Vous êtes allé? Non.
Et non, j'aurais adoré pouvoir y aller, mais non.
Voilà. Et je peux vous raconter, parce qu'on m'a raconté, c'était assez fou, puisqu'on devait se mettre pieds nus, mettre un casque donc sur les yeux, et vous étiez un migrant, et en plus, il y avait des trucs olfactifs qui vous caressaient le visage, donc vous retrouviez sur
Total
une plage.
Immersion.
En totale immersion, vous marchiez sur du sable, c'était dans un grand hangar, donc vous aviez la place pour avancer, il y avait du sable par terre, et vous étiez entouré de migrants qui arrivaient, etc. Les flics débarquaient, bousculaient le monde, voilà. C'était... Alors on m'a dit que c'était, je vais vous dire ce qu'on m'a dit exactement, que c'était impressionnant, mais que c'était pas du cinéma.
Oui,
voilà.
Oui. D'accord, c'était une expérience.
C'est une expérience virtuelle comme il y en aura apparemment à Arles. Et puis, je voudrais quand même parler du festival de Cabourg, le festival du film romantique de Cabourg. C'est bientôt, c'est du 14 au 18 juin. Donc, comme d'habitude, ce sont les films romantiques. Il y aura d'ailleurs Les Ex de Maurice Barthélémy, présenté dans la section Panorama, je crois.
Oui, c'est ça, ouais.
Et la présidente du jury, excusez-moi du peu, c'est Marion Cotillard, qui succède à Emmanuel Béard, qui sera à Cabourg. Avec quand même Horatica, Camille Cotin, Anne Dorval, Hugo Gélin, Nathel Karmitz, producteur et directeur de MK2, l'écrivain Camille Laurence, le compositeur, beau jury, hein, Ibrahim Malouf, et l'acteur Manu Payet pour remettre les fameux Swan d'or. Et puis il y aura aussi le jury jeunesse composé de 6 lycéens de la région Normandie qui seront parrainés par l'actrice Nora Arnezeder et le réalisateur Stéphane de Freitas qui a fait récemment le documentaire À voix haute. Dans un instant, on se retrouve pour notre débat.
La grande séance, le débat.
Alors, bilan 2007 du Festival de Cannes, on a vu
2017.
Que... 2017.
Mais celui de 2007 était sûrement très bien aussi.
C'est sûr, c'est un lapsus. Absence de glamour, sélection dont on n'a pas dit le plus grand bien, quoique le palmarès a ressorti quand même les meilleurs film, je trouve, de cette sélection de 19 films. Il y avait 7 au palmarès, 7 ou 8. C'est vrai qu'on a vu des comédiens évidemment monter les marches, mais souvent les marques ont repris un peu le dessus par rapport au cinéma. Et puis voilà, il y avait une atmosphère. Alors je sais que les gens à Paris, ça les concerne peut-être moins, mais ils ont peut-être moins entendu parler du Festival de Cannes, mais il y avait une atmosphère étrange, peut-être studieuse. Il faut dire que les contrôles de sécurité n'arrangeaient pas les choses, mais c'est vrai que on s'est dit, est-ce qu'il y a quelque chose à changer au Festival de Cannes? Qu'est-ce qui se passe? Quelles impressions vous avez eues, vous?
Bah que,
Antoine Corté.
Oui, que effectivement, enfin pour mon Cannes à moi, c'est que j'ai découvert 120 battements par minute le dimanche, le premier dimanche.
Le film de Robin Campillo
qui est vraiment bouleversé la croisette. Et après, j'ai eu l'impression pendant une semaine que tout me paraissait fade. C'est-à-dire que j'enchaînais les jours et je restais sur ce 120 battements par minute et je me disais, zut, d'habitude on a un Cannes avec 2-3 coups de cœur, 2-3 films qui nous bouleversent. Là, effectivement, je suis resté avec un goût amer sur la compétition, sauf un petit frémissement quand Sofia Coppola est arrivée le jeudi, je crois, avec Les Proies, où là j'ai ressenti encore une fois quelque chose, mais je trouve qu'on est dans une sélection cette année qui n'a pas pris beaucoup de risques, qui sur le papier était très intéressante avec des grands noms et donc
des grands noms qui ont pas fait rater leur coup.
Voilà, c'est ça, mais des
comme c'était Haynes,
c'était alléchant, c'était
alléchant. J'ai vu tous les films d'Haneke depuis 30 ans, c'est la première fois qu'Haneke semble rater son film.
Ah oui, mais complètement. Ouais. Il fait un spin-off Blooby Boulga de ce qu'il faisait avant. Donc, non, effectivement, peu de risques.
Marlaz.
Alors moi j'ai triché, je n'étais pas à Cannes, j'ai vu une sélection des films au Gaumont Opéra à Paris, je suis restée parisienne. Ce que j'ai lu chez les amis blogueurs qui ont suivi Cannes au jour le jour, c'est qu'ils étaient un peu déçus de ce 70e anniversaire qui aurait dû être festif, qui aurait dû être spectaculaire et où on avait plutôt affaire à de l'entre-soi. Alors c'était des blogueurs un peu déçus. Du coup moi j'y suis allée avec un a priori presque négatif au Gaumont Opéra en me disant tiens la sélection il paraît que c'est pas terrible et j'ai eu des bonnes surprises. Du coup, alors je suis
comme le jury d'ailleurs, parce que le jury il dit pas Cannes l'année dernière, Cannes il a 19 films, il est content, ils sont en limousine, ils sont dans les villas et il adore ce qu'ils adorent à juste raison ce qu'ils font. Hein.
Ouais. Alors je suis comme toi par contre pour Wonderstruck, pour le Todd Haynes, c'est vrai que Carole l'an dernier était tellement beau, tellement miraculeux comme film que tout à coup on est très déçu. Je suis comme Antoine Corté pour 120 battements, ça a été un coup de cœur également. Faute d'amour qui est quand même un drame russe terrible et qui est
c'est
assez courageux.
Un peu long,
c'est austère, mais c'est beau.
C'est austère, c'est sûr. C'est un film courageux.
Pas plus que le jour d'après, mais...
c'est un film courageux qui nous dit les égoïstes que nous sommes. Et ça, c'est assez rare. Et c'est bien de le soulever.
Ouais, c'est rude.
Le premier que j'ai vu, c'était Vers la lumière. Donc forcément, j'ai été éblouie, c'est le cas de le dire. Et j'ai aussi été agréablement surprise par Good Time, qui était un très bon petit polar, avec Robert Pattinson méconnaissable, très très loin du vampire, très loin de Twilight.
Et à chaque fois qu'on le voit, il était dans le James Gray, personne ne le reconnaissait.
Absolument,
dans le James Gray. Robert Pattinson, c'est un excellent acteur.
Il est
étonnant dans
Good Time. Il a fait quelque chose de sa carrière après un début très teenage et qui, tout comme d'ailleurs son acolyte de Twilight, les deux font une très belle carrière.
C'est rare, hein.
Beaucoup de films indépendants magnifiques.
Ouais, un futur DiCaprio, je trouve. Il a ça.
Sauf DiCaprio, il s'empâte un peu. Marie, il voulait dire quelque chose.
Non, mais Thierry Frémaux a dit à la conférence de presse de présentation
que la sélection était moyenne.
Il a dit pudiquement. Alors moi, texto, ce que j'ai entendu pudiquement, c'était « on a mis longtemps à choisir ». On était un peu en retard, donc tout le monde a compris entre les lignes que ça signifiait qu'il n'y avait pas grand-chose. Et donc, voilà, on se demande
J'ai du mal à le croire.
Moi aussi, j'ai du mal à le croire.
Ouais, bah,
De 1000 films qu'ils doivent voir.
1800.
Comment on peut dire qu'il y a...
Mais en tout cas, j'ai eu l'impression qu'il y avait du remplissage. Mais... C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment qu'il y en avait quelques-uns qui étaient là dès le départ. Et puis qu'après, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre? Alors, c'est du beau public. Ça, c'est des belles célébrités. Ça, c'est un bon réalisateur.
Ce qu'on ressent, c'est ce que m'avait expliqué un jour, mais dans toutes les entreprises, ils font ça. En tout cas, dans les médias, ils font ça. Et au cinéma, ils font ça. C'est que ils se couvrent, Thierry, avec toute l'amitié que j'ai pour lui. Donc, de mettre Hong Sang-soo, de mettre Todd Haynes, de mettre des noms, c'est les noms. On peut pas lui reprocher. S'il met des inconnus et que ça se plante, c'est lui qui va prendre. S'il met des gens connus et que ça se plante, c'est les gens connus qui prennent. C'est ah, c'est un mauvais année que. C'est, on dit pas c'est un mauvais choix. On dit c'est un mauvais année que, c'est un mauvais Aung San Suu, etc. Donc j'ai cette impression que j'ai depuis 35 ans que je vais à Cannes, qu'on remet un peu les mêmes, sauf qu'à chaque fois on se plante parce que les mêmes sont pas à leur meilleur, parce que c'est des très bons réalisateurs tout cela, des que etc. Mais on les choisit une année où ils font pas leur meilleur film. Ça c'est une chose. Et moi, je me répète et je suis sûr de ce que je dis. Moi qui ai vécu 35 festivals de Cannes à peu près en continu, sans en manquer un, et en voyant tous les films en compétition de la première à la dernière minute, je vais dire qu'il y a eu un tournant à partir de Rosetta, donc il y a 18 ans, 18 ans, elle avait 18 ans, la petite Émilie Dequesne, elle doit en avoir 36. C'est pas Rosetta qui est coupable, parce que Rosetta c'est un film fort, un beau film, mais pour moi c'est symbolique, à peu près à cette époque, on s'est mis à choisir des films dont la Cannes, la raison sociale de Cannes est devenue la société, la marche du monde, la politique, l'économie, etc. Et c'est super sombre. Pardonnez-moi de jouer au vieux, mais on a connu Cannes avec des leçons de piano qui étaient à la fois, qui avaient un fond fort et qui étaient flamboyants. Apocalypse Now, on va remonter plus loin, c'est flamboyant.
Ran,
c'est magnifique. Mash, on remonte encore plus loin. Tous ces films sont des palmes d'or incroyables qui alliaient la forme et le fond et qui étaient flamboyantes, qui enchantaient. Là, je me souviens, 3 mois, 2 semaines, un jour, je sais pas quoi, de Christian Mungiu, qui est un très bon réalisateur. C'est sombrissime, voilà. Alors, la Palme d'Or de l'année dernière, que je trouve entièrement méritée, parce que c'était un film choc, moi, Daniel Blake, c'est sombre quand même. Et maintenant, moi, je dis avec humour que les Frères Dardenne, que j'aime beaucoup au demeurant, même
c'est
si leur dernier film...
C'est presque de la comédie.
Ben voilà, c'est exactement ce que je dis, c'est que on reprochait aux Frères Dardenne leur côté un peu docu-fiction prise sur la société. Et aujourd'hui, après 18 ans de ce régime-là, les Frères Dardenne sont légers à côté de son pouvoir. Ouais. Mais je vous jure, c'est vrai.
Sans battement, moi je l'ai pas vu, mais ça...
Alors Sans battement, c'est autre chose, c'est bouleversant et c'est très beau, c'est très bien filmé. Moi, c'était pas mon préféré. Moi, mon préféré, c'est The Square. Et je m'autocite, encore une fois, après tout, ouais. on est jamais aussi bien savé par soi-même. J'ai donné le palmarès. 7 films sur 8 à leur bonne place le dimanche matin, parce que The Square, je pense que c'est un film qui méritait d'avoir la Palme d'Or. Je trouve qu'un grand prix pour Romain Campillo, c'est très bien. Un prix pour le Russe, c'est bien aussi. Les prix d'interprétation, bah voilà, pareil, on s'est posé la question, mais quelle femme? Et Diane Kruger a eu le prix, d'abord parce que c'est une excellente actrice, mais parce qu'il y avait pas d'autre.
Il y avait personne.
Et du côté des mecs, Joaquin Phoenix, ça, voilà. Et moi, je me souviens encore une fois.
Garel,
parce qu'il fait une composition.
Parce qu'ils osent.
Et Robert
bien.
Pattinson aussi.
Ça m'aurait fait plaisir.
Oui,
pour
Pattinson.
Pattinson.
Mais ce que je veux dire, c'est que je me souviens, alors je regrette cette époque-là, où on se disait, bon, il y a 20 films en compétition, c'est emmerdant, il y en a 15 qui méritent la palme. Enfin, c'était, ou 15 qui méritent les prix. Et on se demandait, à l'époque de Beaucoup de bruit pour rien, de Kenneth Branagh, etc. Là, on se disait, mais comment ils vont réussir à en mettre 7 dans le palmarès? Donc, c'est un peu rude, mais c'est vrai. Et Maurice Barthélémy écoute sagement. J'ai un petit commentaire.
Oui, non, mais c'est vrai que je trouve qu'il manque. Tout à l'heure, vous avez employé le terme de flamboyant. Il manque des films flamboyants, des films épiques, où on est au cinéma, quoi, et on s'en prend plein la vue. Alors, est-ce que ces films-là sont produits aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai ce souvenir-là aussi de Cannes. C'est qu'il y avait des films où on se disait, wow, quoi, ça va être gigantesque, ça va être du cinéma sur un immense écran. Et là, effectivement, on est plus dans un genre, mais dans un genre unique, quelque part. Mmh. Et il y a des immenses réalisateurs dans ce genre-là, mais c'est dommage que ça ne soit pas plus ouvert,
oui,
à la comédie, oui, de tous les pays, il ne s'agit pas de ça, et au cinéma, la fresque, etc. Quoi.
Marie ?
Moi, parce que je vais encore parler d'un film que je n'ai pas vu.
Ouais, mais, c'est pas rien.
Mais non, mais à propos de comédie, ouais, on a parlé du Noah Baumbach, ouais, qui était donc Meyerowitz Stories, oui, en compétition.
Mais qui est pas mal du tout.
Moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'était pas niveau compétition, quoi.
Non, mais voilà. Il y a aussi ce problème-là à Cannes, ah, c'est que c'est pour ça que je dis le jury doit s'amuser, parce qu'il n'écoute rien, il regarde pas les journaux, il regarde pas les notes, les étoiles du film français ou de Screen, etc. Il a 19 films, il se dit s'ils sont en sélection, c'est qu'ils ont le droit d'y être. Alors que nous, les vieux critiques, pas moi spécialement, mais plein de collègues disent qu'est-ce qu'il fait à Cannes, celui-là? On entend ça. Il est pas assez canois. Ouais. On entend ça. Là, le Good Time, Petit Polar, pas assez canois. Meilleure Revue de Story, oh ouais, mais c'est du sous, dit Allen. Mais ouais, mais tout le monde a le droit d'aller à Cannes, c'est vrai. Et Meilleure Revue de Story, c'est peut-être pas le meilleur Noah Baumbach, mais il est sympathique comme tout, quand même.
Il est sympathique. Il se regarde bien sur Netflix, je pense.
Ouais, mais voilà, on a tout.
Justement, sur Netflix, est-ce qu'on a le droit ou pas d'être à Cannes? Moi, j'ai surtout vu dans la presse le scandale, donc, sur Okja, ça s'écrit Okja, ça s'écrit Okja, ça se dit Okja, apparemment, en langue originale. Et,
ça avait fait.
Oui,
ça m'a plu, hein.
Ce qui a fait scandale, c'est que ça vient de Netflix. Netflix propose aussi de très bonnes choses du côté cinéma. Donc, le buzz qu'il y a eu autour de Cannes, c'était plutôt sur a-t-on le droit, a-t-on la légitimité de présenter un film si on vient de Netflix?
Non, c'était pas ça, Marla. Bah,
c'était un
plus
problème
grave
de diffusion.
Que ça. C'est un problème de diffusion. Là, moi, je reçois un coup de fil, je reçois un mail de l'attaché de presse de Okja, je disais Okja Khan, Okta, qui dit, est-ce que vous avez parlé? Bah, je sais pas si je vais en parler, moi. C'est que pour les abonnés. Moi, je parle des films qui sortent en salle. Je parle des films qui sortent en salle. Si maintenant, c'est comme si tout d'un coup, je me mettais à parler d'un film qu'on va que
sur Canal+.
Vous
vous mettez
Canal+,
à faire de la pub pour Netflix, en fait. Si vous
pardon?
Quelque part, vous vous mettez à faire de la pub pour Netflix.
C'est même
si
pas
vous
ça.
Parlez,
ça
parce que pour voir le film, faut
ça me gêne. Ça me gêne pas parce que je suis prêt à, si un film sort en salle et qu'après, il sort en DVD, je veux bien faire de la pub pour le DVD. C'est pas ça. Mon problème, c'est que, le spectateur français voit les films en salle pour le moment, et je peux pas faire recevoir un invité sur Okja alors que c'est juste les abonnés de Netflix. C'est vachement bizarre. C'est très. Alors, je sais pas ce que Maurice Barthélémy en pense, mais c'est vrai que il y a des gens de la culture là, du ministère de nouvellement nommé, qui vont travailler sur la chronologie des médias, je crois cet été. Et c'est vrai que le problème est là. Le problème, c'est qu'on oblige Netflix, une fois que le film est passé en salle, à le donner à ses abonnés que 3 ans après. On comprend pourquoi ils hésitent.
Oui, effectivement, la loi est un tout petit peu obsolète. Il faut un tout petit peu aujourd'hui rapprocher tout ça et moderniser. Moi, personnellement, je suis abonné à Netflix et je regarde énormément de séries. Et je trouve que Netflix, moi, je suis très client. En revanche, je trouve que il est hyper important que le cinéma soit diffusé dans des salles. Et que, parce que sinon, on va tous se retrouver dans 35, 30, 40 ans, ben, à ne plus aller au cinéma et à se mater des séries ou des films devant notre écran géant ou en tout cas à la télé. Et il y aura plus de cinoche, quoi. Donc, non, il faut.
Mais c'est ce que j'entends dire de la part de certains jeunes, c'est oui, mais pourquoi pas, on aura les films directement, tout de suite, au moment de la sortie, on a un grand écran chez soi, etc. Et puis voilà. Et peut-être que sur certains films haut de gamme ou films d'auteur, on pourra aller les voir en salle. Il y a toujours des gens qui les revoient en salle, mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est bizarre. Il y a quand même des 5000 écrans en France. Voilà, si ça tombe à l'eau.
Mais on est un pays ultra privilégié, pardon.
Oui, je vous en prie.
On est un pays ultra privilégié. Moi, je suis à moitié québécoise et donc je vais à Montréal très souvent. Le Québec, c'est une grande région de cinéma. À Montréal, il y a 4 pauvres cinémas où personne ne va jamais. Ouais. Tout le monde voit tout en DVD. Éventuellement, ils vont aller dans les centres commerciaux un peu plus loin, mais pour voir que les énormes blockbusters. On est très très privilégié en France.
Bien sûr, moi en Espagne, je vais très souvent en Espagne, c'est comme ça. Et c'est, effectivement, en France, on est protégé. Moi, j'irais même jusqu'à dire qu'il faudrait que les séries soient diffusées sur grand écran. J'adorerais, par exemple, que Netflix ait le courage de dire, on va y aller, quoi. On va mettre House of Cards sur grand écran pour justement, parce que c'est le besoin de se retrouver avec des gens à côté de soi et de partager un moment ensemble, quoi.
Et les 13 épisodes de suite, alors, Maurice Barthélémy,
oui,
avec
la nuit, évidemment, la nuit
du cinéma.
Ça va de soi.
C'est la nuit.
Voilà pour ce débat, on va passer, alors mettez vos casques là, tous, voilà, on va passer aux quelques-uns des plus beaux thèmes musicaux d'histoire du cinéma. Il y en a 10, on commence, super facile celui-là, mais en même temps il faut retrouver le réalisateur et l'auteur de la musique, c'est parti.
Ennio Morricone.
Bravo.
Le professionnel.
Bravo, un peu excellent, c'est parti.
Et
celui-là un peu plus difficile.
Visconti,
non.
C'est pas Cinéma Paradiso.
Non. C'est La Liste de Schindler.
Ah ok.
Et c'est pas évident hein, parce qu'il fallait envoyer la petite fille là dans le. La petite robe rouge de la petite fille. Steven Spielberg, musique John Williams. John Williams. Ah, ça c'est un classique. J'aurais pas su. Hein.
C'est Godard.
Bravo.
Et c'est Le Mépris.
Bravo. Qu'est-ce que c'est trop fort, ouais. C'est la première fois que l'invité
prend le pouvoir.
Prend le pouvoir.
C'est
absolument.
Delru.
Georges Delru.
Delru. Ouais.
Le 4.
Ah, la leçon piano. Leçon
piano, oui, c'est ça.
Neyman.
Musique Michael Neyman, bravo. Ah, ça va vite, hein. Ça, c'est pour les jeunes. Le 5.
Ah, Inception.
Bravo.
Inception. T'as reconnu Inception avec ça, il y avait trois notes.
Alors,
qu'il a reconnu.
De Christopher Nolan et la musique est de
Hans Zimmer.
Bravo. Bravo, excellent.
Ah, voilà. Rien à faire.
Alors là, attention, parce que là, vous allez vous jeter dessus. C'est le premier qui parle qui a gagné. C'est parti, le 6.
Le parrain.
Le parrain.
Voilà, le parrain.
Et le compositeur, c'est...
Et c'est...
Le plus connu.
Oui,
mais Fellini.
Nino Rota.
Voilà, bravo. Le parrain de Coppola avec la musique de Nino Rota. On n'est pas loin, là, le 7.
Ah, Il était une fois l'Amérique.
Bravo,
Sergio Leone.
Qu'est-ce qu'elle est belle, cette musique.
Ennio Morricone encore du côté.
Ennio Morricone.
De la composition.
Oui, bien sûr.
Moi, je me souvenais pas.
Je suis allé voir en concert.
C'est super belle, c'est vrai.
Oui.
Alors là, je sais pas si vous allez reconnaître la musique parce que je me souviens plus de la musique de ce film. Le 8.
Platoon.
Bravo.
Oh là là.
Ah oui, mais ça c'est la scène
Platoon.
Où il est dans l'hélicoptère et Charlie Sheen.
Oh, je me souviens pas du tout de la musique de Platoon. Ça aurait été à Pog. Et la musique de Samuel Barber.
À sa chaîne.
Le numéro 9.
Ah, ça c'est.
Ça c'est Requiem for a Dream.
Oui, bravo,
Aronofsky
et la musique inconnue au bataillon. Hein. Musique Clint Mansell. Et le dernier, un classique de la littérature.
Orgueil et préjugé.
Non, français. Ah, il est difficile celui-là. Alors, la musique est de Vladimir Kosma.
Mm-hmm.
Le film est de Yves Robert. Mais c'est pas un film, c'est pas un de ses plus connus. Non, mais c'est normal, vous ne sachiez pas. C'est sa trilogie, c'est Le Château de ma mère.
Ah ouais, je me disais que c'était.
Il avait fait La gloire de mon père, c'est un Pagnol, absolument.
La gloire de mon père.
Et ça, c'était Le Château de ma mère. Très beau livre. Faut relire Pagnol. Dans un instant, on se retrouve pour la conclusion.
La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
Donc, je rappelle que notre invité aujourd'hui, c'était Maurice Barthélémy pour Les Ex. Est-ce que quand on a fini, je vois tout bronzé là, Maurice, quand on a fini un film,
quand on revient de vacances,
non, c'est pas ça la question. Est-ce qu'on repense au suivant?
Oui. Alors, c'est une très bonne question. On repense au suivant, mais je suis incapable d'écrire tant que mon film n'est pas sorti.
C'est vrai.
Oui, parce que en fait, oui. je le rapproche à une femme enceinte.
Voilà, j'allais dire ça.
Qu'on a accouché, on peut penser au suivant. Mais là, pour l'instant, je n'arrive pas à écrire. En revanche, j'y pense et je sais très bien sur quel film je vais partir une fois que celui-ci sera sorti.
Est-ce que ce sera une comédie ?
Non, ça sera plutôt une comédie dramatique dans l'esprit de celle de Papa. Voilà.
C'est un désir de matcher les choses ou c'est parce que ça vous vient?
Non, c'est un sujet qui m'est venu un peu par hasard sur c'est une idée qui m'est venue un peu étrange et je peux déjà vous dire le titre, ça s'appellera Un homme sans histoire.
Ah, et, c'est joli comme titre.
Et donc je vais travailler sur ce projet-là et j'espère d'ici 2 ans revenir vous en parler.
Super. Voilà. Bah, cette émission se termine. Maëlle, il y a eu des questions pendant l'émission? Quelques-unes?
Des petits commentaires.
Ah, quel genre?
Ça nous renvoie très loin d'entendre parler de Robin des Bois.
Bah oui. On vieillit tous. Alors, on a fait les tops et les flops. Ce que je voulais juste dire tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de films français qui sortent cet été en juillet-août, sauf Le Valérian.
Ah, d'accord.
De Luc Besson. qui a coûté 200 millions d'euros ou de dollars, et donc qui est condamné à être un super succès. Donc je ne sais pas si Luc Besson va nous montrer le film avant, mais en tout cas, ça va sortir très très bien.
Il s'est battu pour tourner en France.
Absolument, c'est un film français, produit par des Français, voilà.
Pour donner un ordre d'idée, le dernier Harry Potter, le numéro 8, coûtait déjà 150 millions de dollars. Donc on
record battu.
À
merci
millions.
À tous.
Merci à vous.
Merci Maurice. Et on se retrouve pour une dernière mission début juillet. Merci à tous.
C'était La Grande Séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.